Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30.
Avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Ravie de vous retrouver à la une de ce jeudi. Un jeune de 14 ans tué par balle cette nuit à Marseille. Un autre adolescent et un enfant de 8 ans ont été blessés. Une guerre des territoires sur fond de trafic de drogue, dit le ministre de l'Intérieur. Nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, l'accalmie sur le front des incendies dans le Var. Le patron de Panzani qui le confirme sur RTL. Oui, le prix des pâtes va bien augmenter. Et puis à quoi ressemblera la rentrée de nos enfants? C'est dans 2 semaines pile. Jean-Michel Blanquer a évoqué tout à l'heure le protocole sanitaire prévu. C'est d'ailleurs notre question du jour. Un rentrée scolaire à 2 semaines du jour J. La situation sanitaire vous inquiète-t-elle? C'est plutôt partagé. Pour l'instant, vous dites oui à 49%, 43% de non. On attend bien sûr vos appels au 3210 comme chaque jour sur ce sujet. Et sur tous les autres, la météo, c'est avec vous Claire Delhomme. Bonjour.
Bonjour Amandine.
Et
bonjour,
vous nous confirmez, le vent se calme dans le sud-est.
Absolument. Cet après-midi, on aura encore un tout petit peu de vent vers la basse vallée du Rhône, mais sinon partout ailleurs, ça s'est calmé pour le plus grand soulagement de tous. Et donc, le soleil résiste, se maintient en Méditerranée, en Occitanie, Rhône-Alpes, ainsi qu'en Corse, mais on n'est pas à l'abri d'une petite averse orageuse sur les reliefs, ainsi qu'au niveau des Pyrénées. Partout ailleurs, il va falloir faire avec les nuages. On aura quelques timides éclaircies par endroits, à l'exception de la Bretagne, de la Normandie, des Pays de la Loire, et puis au nord-est du pays, où on pourra avoir aussi localement quelques plus faibles encore. Pour les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 19 et 25 degrés entre la Nouvelle-Aquitaine et la moitié nord, 22 à 28 degrés ailleurs, avec encore des points de plus de 30 degrés près de la Méditerranée pour changer.
Merci Claire, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, direction la cité des Marronniers à Marseille. C'est là qu'un adolescent de 14 ans a été tué hier soir. 14 ans seulement. Deux autres mineurs ont été blessés par balle eux aussi. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL et ce midi encore, l'émotion bien sûr est immense.
Ouais, 14 ans, vous l'avez dit, fauché par des balles de Kalachnikov à l'endroit où les guetteurs sont installés à l'entrée de cette citadelle enclavée des quartiers nord. La rafale d'une dizaine de coups de feu n'a laissé aucune chance à Ryan, qui était bien connu dans le quartier.
Tout le quartier est choqué. Personne ne le connaît. On a vu qu'hier, elle était au boulanger, j'étais allé chercher du pain, elle était là, en train de faire son sandwich.
Voir un petit décédé, ça me fend le cœur, parce que c'est comme un frère pour nous. Voilà. Franchement, les gens qui ont fait ça... Franchement, ils n'ont pas de figure, pas de scrupules, rien du tout, franchement.
L'autre adolescent est blessé aux jambes, il est sorti d'affaire, mais vous l'avez dit, un enfant de 8 ans qui rentrait dans son immeuble avec sa mère et sa petite sœur hier soir a lui aussi été victime d'éclats de balles. Heureusement, il va mieux ce matin. C'est la piste d'une vengeance interquartier sur fond de trafic de stupéfiants qui se dessine pour le moment pour les enquêteurs. Et les parents ici s'inquiètent forcément d'une récidive, d'un match retour, comme disent les policiers.
On va remplir. Après, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on reste à la maison, on protège nos enfants. Mais voilà, quand on n'a pas le choix de sortir, on est obligé de sortir. Mais on n'est pas en sécurité, vraiment. Ici, au Marronni. Ça fait 4 mois, c'est le bordel, quoi. Parce que maintenant, on a peur de laisser nos enfants jouer en bas. Et ça peut péter à tout moment. Hier, ça a pété à 22h30. Ça peut péter là, maintenant, on ne sait pas. On marche comme ça dans la rue avec nos enfants et on est au milieu, quoi.
Des habitants pris en étau et ce matin aucune présence policière pour les rassurer. Seuls quelques enquêteurs de la PJ sont venus se pencher sur cet énième meurtre en quelques semaines.
Hugo, vous restez avec nous. On va justement faire le point sur l'enquête. Écoutons avant Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était dans déplacement ce matin à Garda, non loin de Marseille. Mais il ne s'est pas rendu dans le quartier de la Fusillade. Écoutez.
Une terreur qui s'installe dans des quartiers dont on sait qu'ils sont la proie des trafiquants de drogue. Je ne vais pas commenter une enquête judiciaire qui ne va faire que commencer. Mais a priori, il apparaît assez évident que la guerre des territoires est sans doute une des raisons de ces attaques à main armée et qui touchent des jeunes.
Une guerre des territoires, dit le ministre de l'Intérieur. Hugo Hamelin, on revient vers vous. Que sait-on de ces enfants et notamment de celui qui a été tué ?
Ryan, 14 ans, inconnu de la justice, mais fiché par les policiers pour être l'un des guetteurs de la cité des Marronniers, ce que me confirment quelques habitants. Sciemment visé par le tireur qui l'a poursuivi sur quelques mètres avant de l'abattre. Alors est-ce que c'était lui directement ou le réseau de trafiquants plus généralement qui était visé? C'est l'une des questions encore ce midi. L'autre adolescent était suivi par une juge pour enfants, selon la procureure. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Et puis le scooter T-Max qui a servi pour cette équipée macabre n'a pas été encore retrouvé.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, le correspondant d'RTL à Marseille. Bonjour Bruno Bartosetti.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes membre du syndicat Unité SGP Police. Et ce qui frappe, ce qui nous a tous frappés, c'est la jeunesse de ces victimes. 14 ans seulement pour celui qui a été tué par balle. Vous aussi, policier, ça vous interpelle ?
Ça nous interpelle, ça nous choque, mais ça ne nous surprend pas, car on a vu un rajeunissement parmi les guetteurs, les dealers. Alors pour X raisons, je pense que la première, c'est que vous avez aussi des gamins de 14 ans qui sont pas sanctionnables, entre guillemets, hein, dans un premier temps. Puis vous avez aussi de plus en plus d'acheteurs, donc il y a de plus en plus d'offres, de demandes, et bien sûr, on élargit et les employés, entre guillemets, de ces réseaux sont très jeunes. On était surpris, vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on parlait de 16-17 ans, et on voit que ça, malheureusement, ça évolue encore dans la baisse. Et retenons également, ça ne nous échappe pas, garçon de 8 ans à 22h30 le soir, au cœur de la cité, 8 ans, 22h30 au cœur de la cité, comment voulez-vous que ce gamin évolue très rapidement dans un milieu de stup, et très rapidement on va lui donner un rôle de guetteur pour commencer.
Il y a un collectif des quartiers nord de Marseille qui demande la mise en place d'un couvre-feu justement dans ces quartiers. Ils ont demandé ça fin juillet, vous approuvez ?
Couvre-feu, c'est une chose, il faut l'appliquer, donc il faut de la présence policière. Donc nous, ce que nous demandons, c'est une présence policière, mais pas que. Pas seulement en matière de stup, nous ne sommes pas là pour éduquer non plus les enfants et les parents. Nous sommes là pour jouer notre rôle, pour rassurer la population. Le couvre-feu peut être une piste, mais franchement, ce qui compte surtout, c'est que ces cités ne soient pas laissées à l'abandon. Il faut reconquérir ces quartiers, mais pas seulement avec la police et pas seulement avec un travail de police et justice autour des stupéfiants. C'est important d'encourager, de respecter 90% de la population de ces cités qui peut rester dans le calme et avancer dans notre société en dehors des clous de la délinquance.
Tout dernier mot, Bruno Bartosetti, Gérald Darmanin, qui est en ce moment dans la région, a confirmé 100 policiers supplémentaires pour Marseille. Certains d'ailleurs sont déjà arrivés. Ça suffit pas, ça ?
Alors, oui, il y a une annonce de 300 policiers sur les 3 ans à venir. Mmh. On en avait déjà perdu 300. 100 policiers, c'est très bien, même si nous en avions le double. On ne peut que se féliciter de cette présence policière, mais comme je vous le dis à l'instant, en matière de stup, et retenons également qu'il y a une mobilité maintenant qui s'installe. Vous savez, les cités sont devenues des sites. On commande sa cocaïne ou son shit, et puis on est livré à domicile parce que les acheteurs craignent de rentrer dans ces cités. C'est pas très, très, très confortable de se retrouver dans ces cités quand on n'y habite pas. Craignent d'être interpellés en flagrant délit, puisque cette présence policière va permettre du flagrant délit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui commence déjà à se passer? Ça a été accentué avec le confinement. C'est la mobilité pour les vendeurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve également dans une guerre des territoires, parce que vous avez des cités nord de Marseille qui vont tenter de vendre vers les quartiers sud. Et c'est là où commence la guérilla des cités et aussi des règlements de compte pour ceux qui sortent de prison après avoir été dénoncés, par exemple, par des adversaires ou des voyous.
Merci beaucoup, Bruno Bartosetti, d'avoir été en direct avec nous sur RTL, secrétaire national Zone Sud, Unité SGP Police. Merci à vous.
RTL Midi.
Et à 12h38, on part à présent pour le Var avec cette situation qui semble s'améliorer sur le front des incendies. Le feu n'est toujours pas fixé, 1200 pompiers restent mobilisés, mais les conditions météo sont aujourd'hui plus favorables, beaucoup moins de vent. Résultat, les habitants commencent à constater l'ampleur des dégâts. Sébastien Rouxel, vous avez pu suivre un viticulteur tout près de Cogolin.
Et c'est dans la cave de ce domaine, ou plutôt ce qu'il en reste, que les dégâts sont les plus impressionnants. Le toit s'est effondré, des bouteilles de vin explosées, recouvertes de cendres, jonchent le sol. Le propriétaire du domaine, Pierre Audemars, peine à respirer tant l'odeur de brûlé est encore présente.
Vous avez vu, ça fume encore. La ligne EDF a pris feu, les poteaux sont tombés, les câbles sont tombés sur la toiture, ils sont là. Donc on a perdu l'année 2019 en bouteille, l'année 2020 en barrique. On a tout perdu. Il me reste aujourd'hui 2 cuves de rouge dans une cave qui n'a pas brûlé.
Pendant plusieurs heures, lui et sa famille famille ont tenté de repousser les flammes, mais ils étaient bien seuls pour protéger un domaine de 2500 hectares. Et dans les vignes, le feu a là aussi laissé sa marque.
Ben, les feuilles sont brûlées, donc comme les feuilles sont brûlées, les grappes, vous voyez, c'est mort, elles viennent marron, elles ont explosé avec la chaleur. Tout ce qui était contre la bordure a brûlé, tout ce qui est aux extrémités a brûlé, il reste le milieu des parcelles.
Et face à ces paysages dévastés, Pierre a du mal à retenir ses larmes.
C'est dur, ouais. Mais il faut se battre, on va tout faire.
Il compte désormais sur l'assurance pour l'aider à se relever. Une cagnotte va également être mise en ligne pour l'épauler dans ces heures difficiles.
Ce reportage signé Sébastien Rouxel, tout près de Cogolin, dans le Var, à Morlaix, à présent dans le Finistère. Une jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte à son domicile. Son conjoint, un homme d'une trentaine d'années, est en garde à vue. Il s'agit d'un individu déjà condamné pour violence conjugale. La justice avait par ailleurs missionné une association de victimes auprès de la jeune femme, mais celle-ci avait visiblement refusé son aide. Et puis RTL vous le révélait ce matin, les trois gendarmes accusés d'avoir laissé l'un de leurs collègues ivre prendre le volant près de Bourquin-en-Jallieu en février 2019. Seront bien jugés. Ils sont renvoyés devant le tribunal pour non-empêchement d'un crime. Le gendarme en question avait en effet ce jour-là percuté la voiture d'un couple de septuagénaires qui avait été tué sur le coup. On en vient à la rentrée scolaire dans deux semaines, tout juste. Le ministre de l'Éducation nationale faisait aujourd'hui la sienne de rentrée, déplacement à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Et Jean-Michel Blanquer a un peu précisé le protocole sanitaire.
On aura une rentrée scolaire la plus normale possible. Je le rappelle, il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est ouverte. L'objectif doit être très clair et très compris par tout le monde, très simple. L'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France. Mais évidemment avec la prudence sanitaire qui s'impose, c'est-à-dire une capacité parfois à fermer, au cas par cas, une classe en fonction de la situation.
Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Et c'est vous qui avez suivi pour RTL le ministre de l'Éducation nationale ce matin. Ça reste, on va dire, encore très très flou, hein ?
Alors, le ministre précisera dans les tout prochains jours sur quel niveau de protocole sanitaire la rentrée se fera. Il y en a quatre possibles, mais on ne connaît pas les seuils épidémiques qui déclenchent tel ou tel niveau. Pour indication à La Réunion, où les élèves sont déjà de retour en classe, eh bien c'est le niveau 2 qui est appliqué actuellement. À minima, de toute façon, ce sont les consignes de l'an dernier. Port du masque en intérieur, gestes barrières, distanciation, désinfection des salles et aération régulière. Les niveaux 3 et 4 déclenchent les cours à distance en collège et lycée. Alors vous l'avez entendu, pas de passe sanitaire pour les élèves. En primaire, fermeture de la classe dès l'apparition d'un cas de Covid. En collège et lycée, si un élève est positif, pas de fermeture systématique. Les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux, mais les vaccinés ne seront pas considérés comme cas contact et pourront continuer à aller en cours. C'est l'Agence régionale de santé qui devra faire le distinguo entre vaccinés et non vaccinés. Le ministre rencontre les organisations syndicales cet après-midi. Jean-Michel Blanquer a confirmé, il y aura bien des vaccinations dans les établissements scolaires ou dans les centres de vaccination à proximité.
Merci beaucoup Marie. Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. Du côté des hôpitaux, c'est toujours aux Antilles que la situation est la plus critique, en Guadeloupe notamment, où le taux d'incidence continue de progresser. On dépasse désormais les 2150 cas pour 100 000 habitants. Lui a été une des figures de cette pandémie, sans doute l'une des plus controversées. Didier Raoult va prendre sa retraite à la fin du mois. Officiellement, il atteint l'âge limite, hein, à 69 ans. Dans les faits, Sophie Jousselin, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, il y a clairement une volonté de tourner la page Didier Raoult, car même si le célèbre microbiologiste est atteint par la limite d'âge en tant que médecin, il aurait pu rester à son poste de directeur de l'IHU Méditerranée. Sa demande de continuer à y travailler 2 jours et demi par semaine lui a été refusée, car au fond, les prises de position du professeur Raoult exaspèrent une grande partie de la communauté scientifique depuis le début de l'épidémie. Bien sûr, il y a eu celle sur l'hydroxychloroquine, un pseudo-remède miracle contre le Covid, qui a propulsé Didier Raoult sur le devant de la scène. Emmanuel Macron lui rendra même visite. Depuis, le médecin a pris l'habitude de publier de longs monologues sur YouTube, vidéos dans lesquelles il prend presque systématiquement le contre-pied des autorités sanitaires dans sa dernière production. Il y explique que le variant Delta est moins grave que les autres, que l'efficacité du vaccin n'est pas démontrée. Des propos qui dérangent alors que les autorités sanitaires font face à une grave crise sanitaire aux Antilles et que le gouvernement rame pour pousser à la vaccination toute la population. Car Didier Raoult, c'est une voix qui porte et qu'on écoute dans certains milieux, pas forcément les plus enclins à se faire vacciner. Florian Philippot, un de ses soutiens acharnés, dénonce d'ailleurs sa mise à la retraite avec sur Twitter le hashtag « Touche pas à Raoult ».
Sophie Jousselin, merci à vous pour ces explications.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Je vous le disais en titre, le patron de Panzani le confirme ce midi sur RTL. Oui, le prix des pâtes va bien augmenter, il n'y a, dit-il, pas le choix.
Nous sommes véritablement en situation de crise, hein, puisque nous devons faire face à une pénurie de blé dur et une flambée historique des prix mondiaux, 30% de hausse. C'est très important pour nous que nous soyons capables de passer cette hausse au niveau du prix du consommateur, parce qu'évidemment, ça met notre société sous pression et en danger financièrement. Si on ramène cette hausse à un paquet de pâtes, on est en train de parler d'une hausse de quelques centimes.
François Rouillet, le PDG de Panzani, joint pour RTL par Pierre Herbulot. L'association de défense animale L214, elle, publie aujourd'hui une nouvelle vidéo choc, celle d'un élevage de porcs dans l'Yonne. Fait nouveau, c'est un ancien salarié de l'établissement qui témoigne.
Ils ont tapé une truie à la masse, ils l'ont tué le lendemain au fusil. La pile électrique, pour les faire avancer, même si la truie n'en pouvait plus marcher, ils servaient de la pile pour la faire traîner par terre. Il y avait aussi la tenaille pour couper les dents, pour pas qu'ils se mangent les queues entre eux. Ça m'a traumatisé, de toute façon, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'étais voir un psychiatre, un psychologue, et j'étais angoissé. À un moment donné, je mangeais plus de viande. Parce qu'à cause de la maltraitance, donc je faisais des cauchemars. J'ai donné ma démission, comme j'avais trouvé du travail autre part. Puis du coup, je portais plainte contre maltraitance d'animaux. Je souhaite, c'est que déjà le directeur, il n'ait plus le droit d'exercer dans ces domaines-là, et que la porcherie, elle ferme.
Grégory Boutron, ancien salarié de cette porcherie de Lyon, des propos recueillis pour RTL par Nerissa Emani. Les premiers Afghans exfiltrés de Kaboul par la France sont arrivés hier à Paris. 124 personnes qui ont été prises en charge par l'Office français de l'immigration. Nous vous le devons, a tweeté Emmanuel Macron. D'autres évacuations sont prévues et les candidats sont nombreux. Cela pourrait prendre des semaines. La situation, en tout cas, est suivie de près, de très près, par les réfugiés afghans déjà présents en France. Illustration à Calais avec vous, Antoine de Carne.
Sur son téléphone portable, Abdoul, 28 ans, attend désespérément des messages.
Je vois les messages.
Et je garde que Nawal est moins famille.
J'ai parlé avec mon frère hier. J'ai pas parlé avec mon maman depuis 3 jours. J'attends pour qu'il m'appelle.
Lui est arrivé en France il y a 3 ans. Sans nouvelles quant au sort réservé à sa famille, les souvenirs des actes talibans remontent à la surface.
C'est très dur.
Il n'est pas espoir avec les talibans.
Les talibans tuaient mon deux frères, mon papa, attaquaient mon sort.
Dès les premiers jours, il a conseillé à sa famille de fuir au plus vite vers le Pakistan, à 200 km de chez eux.
All the borders are closed.
Toutes les frontières sont fermées. Ils sont donc repartis à Kaboul car il y avait l'armée américaine. Ils ne savaient pas où aller, mais ils se sont dit que peut-être les talibans bon, allez vite les retrouver. Cette situation les effraie.
Alors il tente de garder le contact le plus longtemps possible.
Je suis très très pauvre. J'appelle beaucoup poids. Je toujours pense peut-être à ça, c'est les derniers poids que je parle avec ma famille.
Aujourd'hui, le seul espoir d'Abdoul, c'est un rapatriement en avion n'importe où pour ne pas voir sa famille tomber sous la coupe des talibans.
À Calais, reportage signé Antoine de Carne pour RTL. On en vient à la politique et à un mois de leur primaire, les écologistes sont réunis à Poitiers, journée d'été jusqu'à dimanche. À droite, c'est dans la presse que le match se joue cette semaine. Xavier Bertrand dans Paris Match, Valérie Pécresse dans Le Point, Aurélie Herbemont, bonjour.
Bonjour.
C'est un peu deux salles, deux ambiances comme on dit.
Ah oui, vie privée contre vie publique dans Paris Match. Xavier Bertrand pose pour la première fois avec son épouse Vanessa. Il ouvre même son album de famille. Vous pouvez le découvrir en culotte courte, à la fête foraine ou avec sa grand-mère Yvette. Alors, se livrer sur papier glacé, c'est un passage obligé quand vous voulez devenir président. Xavier Bertrand a donc coché la case. Et pendant ce temps-là, Valérie Pécresse donne une interview plus programmatique dans Le Point, où elle se dit « 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher » et définit le pécrécisme. Ainsi, une bonne dose d'autorité, une bonne dose de liberté et une part importante de justice. Alors, la grande interview au Point, c'est un passage obligé. Pour les candidats aussi de droite. Case cochée par Xavier Bertrand depuis le mois de mars. Candidat à la présidentielle depuis des mois, si ce n'est des années. Il a un coup d'avance dans les exercices médiatiques, mais il voudrait surtout conserver son avance dans les sondages.
Et on regardera ça de très près avec vous, entre autres Aurélie Herbemont du service politique d'RTL. Merci à vous. Une bonne nouvelle à présent, la bonne nouvelle du jour, cette 500e victoire pour Gaël Monfils dans un tournoi du circuit ATP. Le Français s'est qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 de Cincinnati. Il a battu en 2-7 l'Australien Alex de Minaur, 18e joueur mondial. Alors, 500 victoires, ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais sachez-le, ils sont seulement 10 joueurs encore en activité, avoir d'avoir fait aussi bien. Parmi eux, un seul Français, Richard Gasquet. 12h49 sur RTL. Vous êtes bien avec nous. Les auditeurs ont la parole dans une quinzaine de minutes. Avant cela, vos chroniques de l'été. On fera aussi bien sûr un point complet sur la météo. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL, les jeux sont faits.
Les jeux sont faits.
Et après les Jeux Olympiques de Tokyo, il y a quelques jours du coup d'envoi des Jeux Paralympiques, RTL vous emmène cet été à la découverte de villes qui ont déjà accueilli les JO. Cap aujourd'hui sur Rio au Brésil avec Sarah Cozzolino.
En 2016, les Jeux Olympiques de Rio arrivent après une décennie de méga événements. Les Jeux Panaméricains, les Jeux Militaires, les Journées Mondiales de la Jeunesse, la Coupe du Monde. Alex Pitekarioka, un habitant de Rio, ce danseur se souvient de son enthousiasme à l'époque.
C'est le mix des coutures pour le Brésil, c'est un grand cadeau, c'est très 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 important. C'est la première fois que je connais beaucoup des Trussards qui sont venus à Rio, parce qu'il y a beaucoup de langues. Pour pratiquer, pour savoir français, que j'ai parlé comme ça.
Pendant 3 mois jusqu'à l'ouverture des JO, il a parcouru son pays grâce aux danses urbaines pour porter la torche olympique. Une période de tous les possibles pour les étrangers aussi. Pilar Macarena est chilienne et architecte. Elle a travaillé sur beaucoup de projets pour les Jeux, notamment la piétonnisation de la rive Condor qui longe la baie de Guanabara dans le centre-ville.
Énormément de personnes sont venues pour travailler ici à Rio. Moi, j'étais venue pour faire un master et quand j'ai terminé en 2010, tout le monde avait du travail. Il y avait des Français, beaucoup d'Espagnols, des Argentins, tous architectes parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Que ce soit les aéroports, les stades, les espaces publics, les résidences, les hôtels, beaucoup d'hôtels. Les restaurants, tout le monde s'activait.
À l'occasion de ces événements, les infrastructures existantes sont rénovées, comme le mythique stade du Maracanã, et des quartiers entiers voient le jour, comme le parc olympique dans la zone ouest de la ville. Mais au lieu de promouvoir un accès démocratique au sport, la ville encourage la spéculation immobilière.
Près de 700 familles habitaient ici et ont été expulsées sans raison. Regardez tout autour, c'est complètement vide.
Sandra Maria habite la Villa Autódromo, une favela voisine du parc olympique. Sur les 700 familles qui y vivaient, seulement 20 ont résisté aux expulsions.
C'était une période horrible, c'était très violent. On était réveillés le matin à 7h avec la favela complètement encerclée par les troupes de choc de la police municipale. Ils nous coupaient l'eau, l'électricité, la mairie a suspendu les services de base comme la collecte des déchets, la livraison du courrier, tout ça pour nous isoler et nous mettre la pression pour nous obliger à sortir d'ici.
5 ans après, le parc olympique est à l'abandon et les équipements sportifs ne sont pas utilisés par les habitants. Les promesses de transformer certaines arènes en écoles municipales n'ont pas été tenues. C'est symbolique d'une ville qui ne voit que les projets à court terme, selon Alex Pitt.
Malheureusement, c'est assez triste à dire, mais tout ça est très superficiel. Tout a l'air beau, merveilleux, avec une bonne structure, la ville qui change, les transports qui fonctionnent, on se sent en sécurité. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est l'héritage. On a fait des JO dans la ville, mais après.
Des nouvelles lignes de tram, de métro et de bus rapides ont été inaugurées pour les JO, mais encore une fois en ignorant les vrais besoins des Cariocas, selon le professeur universitaire Rafael Soares.
Franchement, quand on voit la difficulté des gens qui habitent à Rio pour se déplacer dans la ville, franchement, je crois que c'est l'un des points les plus compliqués de l'héritage olympique. On ne vit pas mieux de ce qu'on vivait avant. Ça, c'est sûr. Et ça, je crois que c'était un grand échec.
Le maire, à l'époque des JO, a fait son grand retour à la mairie de Rio l'année dernière. Il promet de s'occuper de la question de l'héritage des Jeux olympiques. Mais les Cariocas ne semblent plus trop y croire.
Les Jeux sont faits, une chronique, à retrouver et à réécouter sur l'application RTL. Dans 10 minutes sur RTL, les auditeurs ont la parole, 32-10 pour témoigner, pour commenter l'actualité. On peut bien sûr revenir sur cette fusillade dramatique à Marseille qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à un adolescent de 14 ans seulement. On peut aussi parler de la rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines pile, et un protocole sanitaire encore un peu flou. Jean-Michel Blanquer, vous l'avez entendu, a commencé à à le détailler. On attend en tout cas vos appels. Avant cela, la météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Alors, faut le reconnaître, c'est encore pas terrible cet après-midi dans la plupart des régions.
C'est sûr.
Mais, demain, ce sera enfin mieux.
Oui, exactement. Une petite amélioration, mais quand même avec une France globalement coupée en deux, surtout en matinée avec la moitié nord qui sera encore pas mal ennuagée avec localement un petit peu de brouillard qui sera beaucoup plus persistant vers les côtes de la Manche. Partout ailleurs, davantage de soleil, surtout encore vers la moitié sud, que ce soit vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la région Rhône-Alpes et encore évidemment la Méditerranée. Donc un très beau soleil. Dans l'après-midi, des éclaircies vont pouvoir quand même se développer au fil des heures pour la moitié nord, avec quand même un ciel un petit peu plus encombré, plus couvert vers la Bretagne, la Normandie, le Pays de Caux en remontant vers les Hauts-de-France. Et pour les températures, ça augmente légèrement. En matinée, il faudra compter en général entre 13 et 16 degrés, 17 à 23 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, ça variera entre 21 et 24 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés ailleurs, et encore des pointes à plus de 30 degrés, principalement vers le golfe du Lion.
Bon, et le week-end ?
Alors le week-end, une très belle journée de samedi, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle.
On en
profite avec en plus un pic de chaleur, que ce soit pour la moitié nord, pour la moitié sud. Par contre, à partir de la soirée, va arriver une dégradation orageuse. Elle va traverser la nuit, on va la retrouver dimanche principalement vers les flancs de l'Est, et puis ça va permettre de rafraîchir un petit peu tout ça aussi. Bon. Voilà.
Ça ne dure qu'un temps l'été, cet été. Mais bon. Merci beaucoup Claire.
Je vous en prie.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, puis vous aurez la parole. 3210, je vous le rappelle, à tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole. 50...